Voilà. Bonjour à chacun, chacune. Alors les enfants, il va falloir être un peu patient ce matin avec nous. Dimanche prochain, vous aurez l'école du dimanche. Cette semaine, vendredi a consacré un des trois jours calendaires pour que l'on parle des dames. Il y a des dames qui sont aperçues quand on a parlé d'elles vendredi, non ? En tout cas, il y a ce vendredi 8 mars, il y a la fête des mères et la fête des grands-mères où on parle des dames. Et on a lancé plein de débats sur la place de la dame. La place de la dame dans la religion, c'était le débat de vendredi. La place de la dame dans le couple, la place de la dame dans l'autorité, dans l'égalité, dans la parité. Moi, ça m'a amené à réfléchir, en fait. On essaie de savoir comment nous allons évoluer. Comment nous allons moderniser, comment nous allons améliorer. Une chose dont on pose jamais la question, c'est qu'est-ce que l'Écriture dit ? Alors ce matin, je vais essayer de remettre un cadre. Non pas, je veux pas recadrer les dames, parce que c'est pas l'objectif, mais de recadrer le débat là où il devrait être. Je vous invite à tourner les pages de l'Écriture dans l'Épître aux Colossiens. Il est important de dire ce qu'on pense, mais il est aussi important de dire ce que l'Écriture dit. Colossiens 2, versets 12 à 14. Jusqu'à 15 même. Vous qui étiez morts par vos offenses, Colossiens 2, hein, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et si vous allez au chapitre 3 et au verset 12, donc le chapitre d'après, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ou sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Voilà, on parle des dames là, tout à la fin. Mais en tout cas, le texte grec ne parle pas exactement... Le texte n'est pas écrit exactement comme ça, puisque... Les versets 18 et 19 sont des explications de comment pouvons-nous faire les choses. La chose la plus fondamentale dans laquelle j'aimerais nous entretenir ce matin, c'est qu'en fait, si on essaie de séparer l'homme et la femme, c'est qu'on a du mal à les réconcilier, à les mettre ensemble. Et Dieu, il a fait un grand plan pour mettre l'homme et la femme ensemble. Ce plan s'appelle... le mariage, voilà, vous avez deviné. Et que le mariage n'est pas l'œuvre des hommes, mais qu'elle est l'œuvre de Dieu. Et la plus grande chose que l'on puisse dire que le mariage, c'est aussi la représentation de Dieu. Moïse a exprimé ces choses dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, mais on ne va pas y aller ce matin. Mais on va prendre les citations justement de l'Ancien Testament, où Jésus et Paul eux citent l'Ancien Testament et montrent que le mariage a une valeur intrinsèque et que notre siècle essaye de casser cette idée-là. D'abord Jésus, puisque c'est notre modèle, dans Marc 10, si vous voulez regarder l'Écriture, Marc 10, versets 6 à 9. Marc 10 dans le Nouveau Testament. Les enfants peuvent suivre, s'ils ont une petite Bible avec eux. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la citation de Genèse 2. Ainsi ne sont plus deux, mais un. L'attestation la plus claire que la Bible puisse donner, que le mariage n'est pas une coutume, n'est pas une tradition humaine. Il est marqué là que l'homme et la femme ont été unis par Dieu. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, le mariage. Paul dit que le mariage est une représentation de Dieu. Il dit dans Éphésiens 5, 31-32, citant Genèse 2, 24 aussi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Et là, on a des ponts et des passerelles, où on montre que l'homme ne veut pas que l'homme et la femme soient séparés. Il dit même qu'il est bien, autant que faire se peut, qu'un homme trouve une femme ou qu'une femme trouve un mari. Mais il dit qu'en fait, on est là en train de parler de ce que Dieu a prévu, et que ça a un rapport avec Christ, et que ça a un rapport avec l'Église. L'alliance qui permet de quitter son père et sa mère pour s'attacher à son conjoint, et de devenir une seule chair, est une représentation de Christ et de son Église. L'ultime raison de l'existence du mariage est de représenter l'amour de Dieu, qui conserve l'alliance entre Christ et son Église. Dieu, dans Genèse 3, envisageait l'Église. Mais il fallait déjà que le paiement de la dette, le paiement pour le péché, soit payé. Le modèle de Christ et de son Église, le mariage est élevé. On a parlé vendredi de tout ce qui était pénalisant au niveau de la femme, de l'image qu'on représentait de la femme sur les calendriers, sur les publicités, où on a fait une femme objet. Mais Dieu élève. Dieu n'a pas fait de la femme une femme objet. Il lui a donné une valeur. Et pour ceux qui aimeraient revoir la valeur de la femme, vous pouvez aller voir sur notre site les 8 messages qui parlent de cela. Cela donne une fondation au mariage, une valeur que nous avons oubliée. Cela montre que la responsabilité du mari, avant tout d'aimer sa femme, et de la soumission de la femme, sont cruciales et crucifiées. Pourquoi dis-je ça? Les deux font partie intégrante de la signification du mariage en tant que représentation de Christ. Christ est mort pour son Église. Il s'est donné. Et je pense, nous, messieurs, qu'on a oublié ce que ça voulait dire, se donner. Quand il introduit la soumission, il ne dit pas la servante, la lavette, la serpillière. Mais il dit, si tu aimes ta femme comme tu dois, alors le couple va fonctionner. Et ça, on a oublié. L'image de Christ dans le mariage. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme dans laquelle ils se promettent d'être fidèles, ne formant qu'une seule chair jusqu'à la fin de leur vie. Le but de cette alliance, scellée par les vœux solennels et par l'union des deux chairs, est de montrer la grâce de Dieu qui permet de garder l'alliance. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, 283 fois dans l'Ancien Testament, il est parlé d'alliance. Et les alliances sont faites entre deux personnes égalitaires, entre un homme et un homme. Dans le Nouveau Testament, il est parlé 33 fois du mot alliance. Mais la Bible parle d'une nouvelle alliance. Et Jésus est la représentation de cette nouvelle alliance. La réalisation qui nous permet d'entrer définitivement et de conserver cette alliance. Mais il a fait tout ce qui était nécessaire. On ne dira jamais assez que le mariage est un modèle de la relation entre Christ et son Église. Et parce qu'on ne comprend pas Christ, parce qu'on ne comprend pas ce qu'est l'Église, alors nos mariages dysfonctionnent. Une fondation solide, puisque Christ a obtenu et conserve son épouse, son Église, par la grâce seule. Vous voyez que quand on parle mariage, on est en train de parler de Christ. On est en train de parler de Dieu, on est en train de parler de sacrifice, on est en train de parler de pardon, on est en train de parler de grâce. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, on ne parle plus de ça. On parle d'autorité, on parle de bon temps, on parle de « je te quitte, je te reprends, je t'appelle ». L'idée principale, puisque la nouvelle alliance de Christ avec son Église est créée et soutenue par la grâce, rachetée par son sang, alors les mariages humains sont supposés représenter cette grâce de la nouvelle alliance. Est-ce que la grâce a de la place dans nos mariages? Est-ce que Dieu est présent dans nos mariages? Est-ce que vous les dames, nous les hommes, nous sommes des bons représentants de ces choses-là? Est-ce que nous appréhendons finalement? Est-ce que nos enfants pourraient témoigner que nos mariages sont des lieux de grâce, des lieux de paix? Est-ce que ceux qui nous regardent, nous qui manifestons Jésus-Christ, se disent « ça c'est un couple où Dieu est au milieu ». L'idée centrale, c'est le pardon et la grâce qui justifient. Je suis conscient que tous les chrétiens sont supposés vivre toutes ces relations-là, même si on n'est pas marié, je marquais pas seulement dans le mariage, vivre quotidiennement le pardon, la justification par la grâce qui pourvoit à tous nos besoins, puis l'appliquer à toutes les personnes que nous côtoyons, c'est ça l'œuvre du chrétien. Mais Jésus, ou Dieu a prévu le mariage, et il a illustré le mariage comme l'Église en tant qu'épouse, et lui en tant que mari. Jésus dit dans Matthieu 5,16 que toute notre vie est une représentation de la gloire de Dieu. Le mariage a été fait pour représenter la grâce de l'alliance de Dieu de façon unique, car contrairement à toute autre relation humaine, le mari et la femme sont liés par une alliance dans la relation la plus proche possible et pour toute la vie. Les rôles et les responsabilités de soumission sont uniques. Mais ce n'est pas le moins que je veux traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux considérer les époux comme de simples chrétiens et non comme des têtes. Avant qu'un homme et une femme puissent appliquer de façon biblique et par la grâce les rôles uniques et les responsabilités et la soumission, ils doivent découvrir ce que signifie construire sa vie sur l'expérience verticale du pardon. L'alliance est une alliance horizontale. C'est-à-dire qu'elle est de personne à personne. J'entre dans l'alliance, je le fais avec un égal, quelqu'un qui peut comprendre. Mais pour introduire le pardon, je dois avoir une relation verticale. Cette relation verticale, elle est avec Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a pu nous pardonner. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On entre en relation avec son Père que par lui. Donc si on n'a pas de relation verticale, on ne peut pas avoir de relation horizontale. Et l'alliance que nous allons mettre en place va être une alliance corrompue. Si quelque part, je n'ai pas compris que ce lieu privilégié que Dieu m'a donné le privilège d'avoir est un lieu où finalement Dieu travaille. Car sans cela, vous serez tenté de penser que la colère que vous ressentez des fois envers votre conjoint, votre conjointe, est trop grande pour être surmontée. En effet, nous n'avons jamais vraiment connu ce que signifie une vraie colère. Mais Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dans Colossiens 2,13, il est dit ceci. « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour nos offenses. » Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Les dernières paroles sont cruciales. Le rapport de dette en notre défaveur, Dieu la met de côté. Il la cloue à la croix. Quand est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé il y a 2000 ans. Cela ne s'est pas passé en vous ni avec votre aide. Dieu a fait cela pour vous et en dehors de vous, avant même votre naissance. Dieu retire sa colère. Ce n'est pas une leçon pour nous ? Pour nous qui sommes couple, pour nous qui sommes frères et sœurs, pour nous qui sommes l'Église du Dieu puissant, de pouvoir pardonner, de pouvoir faire grâce. La liste de nos dettes a été annulée à la croix. Assurons-nous de bien comprendre cette vérité. La plus merveilleuse et la plus surprenante de toutes les vérités. Dieu a pris la liste de tous nos péchés qui nous rendaient redevables et dignes de subir sa colère. Les péchés sont les préjudices envers Dieu qui appelle sa colère. Et au lieu de les brandir devant nous, de les utiliser comme garantie pour nous envoyer en enfer, il le met dans le creux de la main de son Fils et les transperce en enfonçant le clou de la croix. Je vais relire cette phrase, parce qu'elle est forte de conséquences. Dieu a pris la liste de tous nos péchés, qui nous rendaient redevables et dignes de subir sa colère. Les péchés sont des préjudices envers Dieu qui appelle sa colère. Et au lieu de les brandir devant nous, de les utiliser comme garantie pour nous envoyer en enfer, il les met dans les mains, dans le creux de la main de son Fils et les transperce. Est-ce que vos péchés, nos péchés, ont été cloués à la croix ? À qui sont les péchés qui ont été punis à la croix ? Les miens. Ceux de mon épouse, ceux de mes enfants, les vôtres, les péchés de tous ceux qui désespèrent de se sauver eux-mêmes et de mettre leur confiance en Christ par eux-mêmes. Quelles sont les mains qui ont été transpercées à la croix ? Qui a été puni ? Pas nous. Jésus. Ça s'appelle une substitution. Dieu a condamné mon péché au travers de la chair de Christ, son Fils. On a du mal à le croire. Et mesdames, vous avez des fois du mal à le croire, et vous, messieurs aussi. Si nous cherchons à rassembler toute notre compréhension de la justification exprimée par ce que Dieu montre dans l'Épître aux Romains, par exemple, ce qu'on étudie le vendredi, nous pouvons dire que la justification dépasse le pardon. Non seulement nous sommes pardonnés à cause de Christ, mais Dieu nous déclare justes à cause de Christ. Dieu nous demande deux choses, que nos péchés soient punis, que notre vie soit rendue parfaite. Nos péchés doivent être punis et nos vies doivent être justes. Nous ne pouvons porter notre propre punition, c'est le psaume 49, versets 7 et 8. Nous ne pouvons pas pourvoir à notre propre justice. Personne n'est juste, dit Romains 3, verset 10. Dieu, dans son amour, sans limite, donne son Fils pour accomplir les deux choses demandées. Christ porte notre châtiment et nous rend juste. Et lorsque nous recevons Christ, dans Jean 1, 12, on ne naît pas chrétien, on le devient, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Toute notre punition, toute notre justice, nous sont imputées à justice. Waouh ! Messieurs, mesdames, frères et sœurs, comment pouvons-nous nous tenir devant Dieu ? L'alliance, je le répète, c'est une alliance qui est faite pour être horizontale entre personnes égales. Dieu, dans sa volonté intrinsèque, générale, voulue, a voulu que cette relation entre lui et nous, qui sommes intrinsèquement différents, on est à son image, mais on n'est pas comme lui, a voulu que nous ayons cette relation avec lui pour que nous puissions la transmettre aux autres. La justification nous a rejoints. La réalité verticale qui doit nous rejoindre horizontalement dans nos relations entre époux, si le mariage doit représenter l'alliance, c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Dans Colossiens 3, 12, 13, que nous avons lu, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites grâce. » Alors j'avais préparé un petit quelque chose, voilà, faut que je le retrouve. Ce qui est intéressant quand on parle d'alliance, l'alliance que Dieu nous propose, dans Galates 3, 13, elle nous parle que nous sommes rachetés, ce sont les bienfaits. Dans Romains 5, elle dit que nous sommes justifiés. Dans 1 Corinthiens 1, 9, elle dit que nous sommes en communion avec Dieu. Dans Jean 1, 12, elle dit que nous sommes introduits dans sa famille. Dans Éphésiens 2, elle dit que c'est un don et que ce don va jusque dans la vie éternelle. Dans 1 Pierre 1, 5, elle dit que le bienfait, c'est la protection. Dans Éphésiens, dans Hébreux 10, 19 et 20, il est marqué que nous avons un accès direct au trône de Dieu. Dans Colossiens 3, 24, il dit que c'est un héritage, que nous avons part maintenant à l'héritage. Dans Colossiens 1, 14, que nous avons le pardon de nos offenses. Dans 2 Rois 23 et dans Romains 5, il dit que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons sa paix. Dans Galates 3, 13 et 14, il dit que l'annulation de la condamnation de la malédiction a été enlevée et que nous sommes maintenant sous la bénédiction de Dieu. Dans Romains 4, 13, il dit que nous sommes héritiers de Dieu. Dans Galates 3, 29, que nous sommes héritiers de Christ. Et dans Tite 3, 7, il est marqué, nous sommes héritiers de l'espérance de la vie. Mes amis, c'est ça l'alliance. C'est pas juste je t'aime, tant que tu feras bien la cuisine, je te garde. Dès que tu oublies comment la faire, je te jette. Mais l'alliance que nous offrons, l'alliance de paix que Dieu nous offre, parle de rachat, de justification, de communion, d'adoption, du don de la vie éternelle, de protection, d'accès libre, d'héritage, de pardon, de réconciliation, d'annulation, d'héritage. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est ce que j'offre à l'autre? Ou est-ce que je suis tellement intéressé à changer les règles? Les comités de libération. On libère, on veut être libéré de nos devoirs pour pouvoir les changer. C'est ça l'évolution. On veut être libéré de l'entrave. C'est pas une entrave. Être rendu juste n'est pas une entrave. Être pardonné n'est pas une entrave. Je n'entrave personne quand je lui dis « Je te libère de ton péché. Je te pardonne. Je t'aime. De l'amour. Femme, aimez vos maris comme Christ a aimé l'Église. À cause de Christ. » Voilà, ça va faire jaser à midi. Hein. Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites-vous aussi grâce les uns les autres. En pardonnant, et là je commence votre conjoint, celui qui vit avec vous. Comme le Seigneur vous supporte, vous aussi, vous devez aussi vous supporter les uns les autres. Le Seigneur vous supporte tous les jours lorsque vous manquez à l'accomplissement de sa volonté. Le chemin à parcourir entre ce que Christ attend de nous et de ce que nous accomplissons est un long chemin qui existe entre ce que nous attendons de notre conjoint parfois, des attentes des frères et sœurs, et de ce qui se passe en réalité. Pardonner. Vous vous rappelez, quelqu'un a cité ce matin, il dit on n'est pas obligé de répéter la prière de Matthieu 6 tous les jours. Mais moi, je nous invite à la répéter tous les jours dans le secret de notre cœur. Parce qu'il y a une phrase dedans. Qui dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme moi aussi, je ne pardonne pas aux autres. C'est pas une répétition simultanée, hein, c'est pas quelque chose qui va nous sauver, mais c'est quelque chose qui va nous dire, hey, si tu vas présenter ton offrande et tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. Restez proche de lui comme il reste proche de vous. Ceci est valable pour vous marier à un chrétien, mais aussi vous qui n'êtes pas mariés avec un chrétien, que la mesure de la grâce de Christ envers vous puisse être manifeste et que la mesure de la grâce soit la même de la mesure de la grâce envers les autres. Si vous êtes marié à un chrétien, vous pouvez ajouter la chose suivante, comme le Seigneur vous compte juste en Christ, alors que vous ne l'êtes pas, tant que notre comportement dans nos attitudes comptait aussi que votre conjoint est juste en Christ. Nous avons besoin de la sagesse. Mais cette sagesse prend corps dans l'Évangile. Je reprends ma petite feuille, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'homme fait une alliance, on voit dans l'Écriture qu'il manifeste le degré de l'alliance. Dans Genèse 15, je cite rapidement ce matin, mais c'est intéressant, le livre de l'alliance, pour ceux qui veulent savoir, c'est Exode 24. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une alliance, on offre un sacrifice. Alors ne rentrez pas pour découper votre femme en morceaux en disant « j'offre un sacrifice ». Ce n'est pas la bonne chose à faire. Dans Genèse 15, ils offrent des animaux coupés. Les contractants passaient entre les animaux, Genèse 15, 17, en prononçant des imprécations contre celui qui manquerait à sa parole. Dans Genèse 26, un festin était offert. Dans Genèse 31, on érige un signe visible de l'alliance. C'est intéressant, aujourd'hui on va enlever tous les signes de l'alliance. On va enlever tout ce qui en fait le symbole. Je suis marié, je suis pas marié, je vis comme je veux, je fais comme ce que je veux, j'enlève tous les signes visibles. C'est intéressant notre société, on va enlever tout ce qui fait les signes visibles. Mais on veut mettre à la place tout ce qui est mauvais. Ça a le droit d'être sur la place publique. Mais ce qui est bien, il faut l'enlever. Qu'est-ce qui montre que j'ai fait une alliance? Est-ce que j'ai érigé un signe visible? Et ce qui est intéressant, si les hommes l'ont fait, regardez bien, dans Genèse 8, 20 à 9, 27, Dieu a donné un arc-en-ciel. Voilà le signe de l'alliance avec Noé. Avec Abraham, un signe un petit peu plus difficile, il a donné la circoncision. Il a dit, ça sera le signe de l'alliance. Au Sinaï, dans Exode 19, il a donné le sabbat. Dans Daniel 11, 22, Israël a été désigné comme le peuple de l'alliance. Il a conclu avec Dieu une sainte alliance. La Sainte Cène. Jésus a dit, je fais avec vous une alliance nouvelle. Qu'est-ce que nous avons à ériger pour montrer notre alliance avec Dieu? Qu'est-ce que nous avons à lui proposer? L'Évangile, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Jésus est le Messie, qu'il est bien celui qui avait été annoncé, qui avait été annoncé déjà dans le chapitre 3 de la Genèse, qu'il est venu sur terre, qu'il a été arrêté, crucifié à ma place, qu'il est mort, qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité, et qu'il nous a rendus justes. Vivre une relation verticale, puis la mettre en pratique sur le plan horizontal, il peut être utile de terminer en donnant quelques raisons pour lesquelles nous mettons tellement l'accent sur l'amour en tant qu'alliance. Alliance qui pardonne, alliance qui considère l'autre comme étant juste, même le Nouveau Testament place la barre, le curseur un tout petit peu plus haut. Parce qu'il dit que tu devrais considérer tes intérêts supérieurs à ceux des autres. Non. Que tu devrais considérer les intérêts des autres comme étant supérieurs aux tiens. C'est ça l'amour. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on fait dans la société. Est-ce que je ne crois pas au fait d'être content de l'autre personne? La Bible pousse dans cette direction. Jésus a contracté une alliance avec son épouse, nous, l'Église. Il est clair que lui, il a montré comment il l'a fait à la croix, mes amis. Dans Colossiens 1:10, il est marqué qu'il est bien de plaire à notre Dieu, pas de plaire aux hommes. Paul a dit aux Corinthiens, si je devais plaire aux hommes, alors je perdrais mon chemin. Il est certainement digne que nous prenions plaisir en lui. C'est l'idéal dans le mariage. C'est l'idéal dans l'église aussi. Deux personnes qui sont assez humbles pour chercher à changer pour le meilleur, et pas pour le pire, afin de plaire à Dieu, à leur conjoint, en répondant à ses besoins. C'est ce que Christ a fait. On parle beaucoup de Christ, n'est-ce pas? On dit qu'on est des chrétiens. Chrétiens, ça veut dire des petits Christ. Mais nous ne sommes pas Christ. Nous sommes encore enfermés dans cette carapace qui nous amène à pécher, n'est-ce pas? Nous sommes encore enfermés dans nos pensées, dans notre monde. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais j'insiste sur le fait de vivre la relation verticale par la grâce de Dieu et qu'elle puisse avoir des résonances dans notre vie de tous les jours, dans les choses pratiques, dans nos relations horizontales par le pardon, la justification, et notamment celle de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce qu'il va y avoir un conflit, et que nos conflits sont basés sur le péché, sur nos différences, et que pour nous mettre d'accord, nous avons besoin de nous tourner vers Christ. Le dur travail de la persévérance, du pardon, rend possible la gloire de Dieu. Mais elle ne revient qu'à Dieu. Lorsque deux personnes très différentes, très imparfaites, vivent ensemble une vie de fidélité dans la fournaise de l'affliction en se reposant sur Christ. Mes amis, on peut essayer de refaire le monde. On peut essayer de débattre comment on pourrait améliorer les religions. Je rappelle que la religion, c'est un espace humain qui essaye de mettre en application des principes. Dieu ne parle pas de religion. Dieu parle de relation. Relation avec lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ayons cette relation. Et il l'a offert non pas à des gens qui étaient bien, mais à des pécheurs. Mais si ce matin on revient au couple, si on revient à l'église, mari et femme, frères et sœurs, assimilons dans notre conscience ces grandes vérités, plus grandes que tout problème qui existe dans notre mariage et dans l'église. Dieu nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Est-ce qu'on veut prendre du temps devant Dieu pour regarder déjà dans notre foyer, dans notre couple, dans nos familles et par extension dans la famille de Dieu? Si nous sommes prêts à appliquer ce que Dieu nous demande ici. Si déjà on a bien compris que nous avons été pardonnés, nous. Et que c'était une grâce parce qu'on n'était pas meilleur que les autres. Et que grâce à ce pardon, grâce à cet amour, moi je peux être en relation avec mon Dieu, dans une relation verticale. Mais que ce signe de l'alliance, Dieu l'a donné pour que horizontalement, les choses aillent mieux. Alors je vous invite juste à baisser vos têtes quelques instants. Et que peut-être on puisse demander à Dieu de nous aider dans nos couples. À peut-être considérer le couple que je forme. Est-il conforme à ce que Dieu demande? Est-il un mariage? Une alliance? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que c'est à son honneur? Est-ce que je peux le rectifier? Et puis, si c'est pas le cas, peut-être de prendre l'engagement. Il y a quelques semaines, quelques deux sœurs avaient pris cet engagement de mettre en conformité leur vie. Mais ce matin, ça va plus loin que ça. La relation verticale que j'ai avec Dieu, est-ce que je veux la mettre en conformité dans ma vie? Avec ceux qui me sont proches et que Dieu, pour qui Dieu a payé le prix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin parce qu'en regardant à ton écriture, nous voyons la grandeur de ton amour. Seigneur, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes qui veulent bien faire des pactes. Nous sommes des hommes qui veulent bien faire des alliances avec des hommes. Mais souvent, derrière ces pactes, derrière ces alliances, il y a nos intérêts. Seigneur, toi, tu n'as pas regardé à ton intérêt, mais tu as regardé au nôtre. Nous qui étions loin, tu nous as rapprochés. Nous qui étions ennemis, tu nous as réconciliés. Tu nous as offert ton amour, tu nous as offert ton pardon. Et pour cela, tu as accepté d'être sacrifié à notre place. Alors ce matin, je veux te remettre ton assemblée, Seigneur. Je te remets tous les couples. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui vivent en couple. Je te demande, Seigneur, de les aider à remettre au centre de leur vie cette union que tu veux leur donner avec leur conjoint, avec celui qui partage leur vie. Je te demande, Seigneur, de les aider à remettre de l'ordre, parce que ce n'est pas notre ordonnance, ce n'est pas une ordonnance humaine, mais nous l'avons revue ce matin, c'est ton ordonnance à toi. C'est comme ça que toi, tu as voulu les choses. Et puis je remets ton Église. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, tu connais nos manquements, tu connais nos chutes. Mais Seigneur, cette alliance verticale que tu nous as donnée, tu veux que nous puissions la donner à nos frères et sœurs. Alors ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce. Ta grâce sur ton Église, ta grâce sur nos vies, ta grâce sur notre compréhension. Que tu nous aides à aller de l'avant, pour que nos vies n'entachent pas l'œuvre de la croix, pour que nos vies ne soient pas des obstacles, pour que la grâce puisse être annoncée dans cette ville, pour que la grâce puisse être publiée. Visite-nous ce matin. Alors j'aimerais vous offrir ce matin. Peut-être je m'adresse déjà au couple. Peut-être vous avez des difficultés dans votre couple, peut-être ce n'est pas si facile que ça. Et ce matin, vous dites, moi j'aimerais bien que Dieu visite mon couple. Mais avant de visiter mon mari, mon épouse, j'aimerais bien lui demander la grâce de me visiter ce matin, pour que moi aussi je puisse appliquer le pardon. Pour que moi aussi je considère celui ou celle qui est à côté de moi comme quelqu'un de justifié, comme quelqu'un d'aimé et de pardonné. Alors si c'est votre cas ce matin, on garde les têtes baissées, ça ne regarde pas ni mon frère ni ma sœur, ça me regarde moi. Et si j'ai besoin d'aide dans mon couple, si j'ai besoin d'aide dans mon foyer, si j'ai besoin de remettre Dieu au centre, tout simplement là où vous êtes, vous levez la main pour que je vous voie. Oui, que Dieu vous aide. Oui, que Dieu vous aide, oui. Que Dieu soit avec vous, mes sœurs, mes frères. Parce que c'est la plus belle chose que Dieu a faite. Et puis peut-être si nous avons des difficultés entre nous, peut-être si le mot pardon est tellement difficile à être offert, peut-être ce matin c'est l'occasion de prendre la main de Dieu et de dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à offrir cette grâce comme toi tu m'offres cette même grâce. Alors si ce matin nous avons besoin de l'aide de Dieu, que nous puissions aussi le manifester. Demandez à Dieu qu'il soit là, parce que c'est son amour, parce que nous voulons manifester sa gloire et ne pas être un obstacle. Si quelqu'un veut de l'aide, oui, que Dieu te bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions ce matin. Tu vois des amis qui ont levé la main parce qu'ils ont besoin de toi. Et je te demande vraiment de les aider. Je te demande de pouvoir nous aider ensemble à crucifier, Seigneur, à laisser sur la croix ce que toi tu y as mis et tu y as crucifié nos péchés. Sois béni, Père. Et sois béni aussi pour toutes les conséquences de ce que tu as fait à la croix et toutes les choses que toi tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.